Vous aurez le temps des questions ensuite.
Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tes paroles d'accueil et de ta présentation. Puis merci à votre association de m'avoir invité. C'est vrai que c'est une question que je n'aborde pas simplement comme ça, comme on peut aborder des questions qui nous restent extérieures, mais c'est une question pour moi aussi qui touche à l'existence, qui touche au sens de l'existence. Donc on m'a proposé de réfléchir avec vous sur la spiritualité dans le contexte donc des soins palliatifs. Pour vous compléter un petit peu, pour vous dire d'où je parle, avant on disait toujours d'où tu parles. Avant de parler, il fallait dire d'où on parlait. Alors moi, donc je suis évêque à Marseille, mais avant ça, j'ai créé à Marseille un institut universitaire qui avait pour fonction de travailler aux relations interreligieuses sur le pourtour méditerranéen. Et donc, ça a vraiment occupé 20 ans de ma vie que de travailler aux relations interreligieuses, d'essayer de comprendre ce qui était en jeu là-dedans, d'essayer de connaître un peu les religions des autres. J'ai déjà du mal à connaître la mienne, donc en plus, les religions des autres, on les connaît pas vraiment, on les met enfin, on se laisse y introduire, on essaie de comprendre. Donc ça, ça a beaucoup marqué mon travail de prêtre, et puis, voilà, j'ai travaillé pour cela dans plusieurs instances, que ce soit au Vatican ou ailleurs, pour les questions des relations interreligieuses, et encore aujourd'hui, maintenant, comme évêque, je viens d'être nommé au conseil de l'ensemble des évêques de France pour travailler sur les problèmes interreligieux. J'arrive d'ailleurs de Lyon, où j'ai participé au quatrième forum islamo-chrétien, qui est vraiment une rencontre très importante parce qu'elle se fait à huis clos, entre 25 et 25, qui sont des 25 chrétiens, catholiques, protestants, et 25 musulmans, qui sont des responsables de communautés, comme c'est à huis clos, comme on est entre nous, comme c'est la quatrième fois, qu'on se connaît, qu'on peut aussi poser des questions qui fâchent, qui sont difficiles. C'est vraiment des choses très très importantes et voilà, c'est un travail très, très urgent dans notre société, me semble-t-il. On pourra peut-être y revenir. Ceci pour dire le lieu d'où je parle. Et maintenant, ce que je voudrais vous proposer comme réflexion pour nourrir notre débat, je vais essayer d'organiser les choses en trois temps. D'abord, une petite réflexion sur la santé et le sacré. Ensuite, sur spiritualité, laïcité et religion. Et enfin, sur fin de vie et sens de l'existence. Voilà. Puis on verra si on est toujours là. Si on a tenu le coup jusque-là, on verra ensuite dans le débat comment compléter aussi et à partir de votre propre expérience. Donc d'abord, quelques petits mots sur la santé et le sacré. C'est surtout ce que je voudrais dire là, c'est surtout pour nous aider d'entrée de jeu à déjouer certaines ambiguïtés. C'est pas une question facile que de parler de la spiritualité. D'abord, c'est spiritualité, vous voyez. En fait, c'est pas une question facile, et Jean-Marc l'a dit tout à l'heure dans son introduction, c'est même une question dont on a du mal à se saisir, qu'on hésite à laisser poser, voilà, avec laquelle on n'est pas très à l'aise. Alors d'abord, sur la santé et le sacré, je voudrais essayer de nous aider à déjouer quelques ambiguïtés. Il y a quelques années, un grand philosophe protestant, que vous connaissez sans doute, Paul Ricoeur, avait écrit un article dans la revue Esprit, qui s'appelait « Le scandale du mal ». Et dans cet article, il écrivait ceci, je cite, « Celui qui peut dire qu'il croit en Dieu malgré l'objection du mal, trouve en Dieu la source de son indignation et non pas l'apaisement de son besoin d'expliquer. » Cette phrase m'a beaucoup fait réfléchir. « Celui qui peut dire qu'il croit en Dieu malgré l'objection du mal, de la souffrance, etc. trouve en Dieu plutôt la source de son indignation que l'apaisement de son besoin d'expliquer. » Elle m'a fait réfléchir cette phrase parce qu'il me semble que lorsque nous sommes confrontés au mal et à la souffrance,
Le besoin d'expliquer nous habite tous. Et c'est bien légitime. On a besoin de comprendre. Et quand on regarde comment les religions sont intervenues dans cette question humaine, fondamentale, normale, si vous voulez, le besoin d'expliquer, on s'aperçoit que depuis l'aube des temps, les hommes ont cherché, du côté du sacré ou de la religion, un apaisement plus ou moins efficace de leur besoin d'expliquer. Introduisant souvent d'ailleurs d'une façon subreptice l'ombre de la culpabilité, l'insidieuse thématique du péché dans la relation entre la santé et le salut. Et de ça, il faut prendre acte. C'est-à-dire qu'une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles on est si prudent dans le recours à la religion au moment où la santé défaille, c'est qu'on sait d'expérience, de la longue expérience des âges, que lorsque les religions veulent trop rapidement donner une réponse au besoin d'expliquer, elles peuvent dire n'importe quoi. Et parfois même faire encore plus de dégâts que si on n'avait pas eu recours à elles pour essayer d'apaiser le besoin d'expliquer. Et en discutant avec Jean-Marc l'autre jour, on évoquait certains cas où des représentants religieux peuvent d'un seul coup débouler dans une institution où on a peut-être fait appel à eux, et où du coup leur préoccupation du respect des rites et des obligations religieuses peut nuire au désir de vivre des passions auprès desquelles ils sont venus. Du coup, on le sait d'il y a longtemps. Les recherches, j'avais travaillé à la Sorbonne, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, j'avais eu comme prof Michel Mélin, qui est un anthropologue du religieux, et qui avait trouvé déjà dans les sociétés égyptiennes, en Mésopotamie, des indices de ça. Par exemple, il disait, il avait retrouvé sur une stèle égyptienne un texte qui attribuait la cécité qui avait soudainement frappé un ouvrier sur un chantier au faux serment qu'il avait commis, et il disait « J'ai juré faussement contre le Seigneur de justice et du coup il me fait maintenant l'obscurité en plein jour ». Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Dans des récits babyloniens aussi, en Mésopotamie, on trouve les mêmes choses. Un malade qui souffre de céphalée et de fièvre dit « Nombreuses sont mes fautes, j'ai manqué en tout, du coup c'est une punition », etc., etc. Bien sûr, le christianisme, et avant lui le judaïsme, et ensuite d'une certaine façon l'islam, n'ont pas échappé à cette pente dangereuse. Et d'autant que, à certaines époques de l'histoire, on peut même dire que pour certaines religions, l'entretien d'un lien suspect entre la maladie et le péché a permis à certaines religions, dont le christianisme, de garder une certaine emprise, dont vous savez aussi tous les travers possibles. Autrement dit, on est bien avisé d'être prudent. On est bien avisé d'être prudent. Que de choses fausses n'a-t-on pas dites sur la prétendue valeur de la souffrance en vue du salut? Il faut aussi l'avoir en tête parce que c'est pas si loin. Et du coup, dans les prudences instinctives d'aujourd'hui, il y a beaucoup de la réalité d'hier. Je pense au cardinal Coffi, qui était l'archevêque de Marseille, qui m'a beaucoup accompagné au début. C'est lui qui m'avait poussé à créer l'Institut de sciences et théologie des religions, et qui est mort d'un cancer au pancréas, puis qui s'était généralisé, qui est mort à Ambroise-Paré, et qui m'avait, je l'avais vu pendant qu'il était là-bas malade, et il m'avait dit, si tu savais le nombre de conneries que j'ai dites sur la souffrance, surtout n'en fais pas autant. C'est donc avec une certaine prudence, moi aussi, que j'ai répondu à la demande faite ce soir. Donc, voilà, il y a une ambiguïté du rapport au sacré dans le contexte de la maladie. Une ambiguïté du rapport à la religion quand on traverse l'épreuve de la souffrance. Il est toujours ambigu de vouloir compenser l'absence de santé par une surenchère de sacré. Et je me souviens de ma sœur, puisqu'on l'a déjà évoqué, Marie-Jeanne, quand elle était à l'IPC, au début de sa prise en charge, un prêtre était venu et avait cru bon de lui porter l'Eucharistie.
l'hostie. Et elle n'avait pas voulu. Et quand j'étais passé après, elle m'avait dit, mais tu te rends compte, j'ai rien demandé et je suis pas encore morte. M'avait-elle dit, je me souviens de ça. Peut-être que le prêtre n'était pas animé d'un mauvais sentiment, c'était pour lui, il pensait faire le meilleur de ce qu'il pouvait faire. Mais on ne recourt pas au sacré dans n'importe quelle condition. Voilà. Ça dépend de beaucoup de choses, et je vais y venir tout à l'heure, mais voilà, il y a toujours un risque à vouloir compenser l'absence de santé par l'abondance de sacré. Alors je dis c'est ambigu. Quand on dit ambigu, ça veut dire qu'il y a du bon et du mauvais. Le mauvais, je viens de le dire. Le bon, c'est que souvent, quand même, l'expérience de la souffrance éveille aussi, à la fois chez le patient, mais aussi chez ceux qui l'accompagnent, une certaine dimension que, faute de mieux, j'appellerais une dimension spirituelle. C'est-à-dire une dimension qui a quelque chose à voir avec la question du sens de la vie, avec la question de la profondeur de toute vie. Voilà. Et ce qui est le plus difficile, et ce qui fait l'objet de notre recherche, si j'ai bien compris, c'est d'honorer cette dimension spirituelle en déjouant les ambiguïtés du rapport au sacré. C'est pour ça que je voulais commencer par là. Et il me semble, alors c'est une hypothèse, mais on pourra revenir à ça dans le débat, il me semble que là où on peut, comment dire, ça nous sert un peu de vérificateur, hein, qu'on n'est pas en train de tomber dans des mauvaises choses, c'est que la dimension spirituelle peut amener plus facilement à cette source d'indignation qu'évoquait la citation de Ricoeur avec laquelle j'ai commencé. Celui qui peut dire qu'il croit malgré l'objection du mal, trouve alors en Dieu, s'il croit en Dieu, la source, la force de son indignation, et non pas l'apaisement de son besoin d'expliquer. Vous voyez, la dimension spirituelle, si elle est, comment dire, si elle est profitable, elle n'essaie pas d'apaiser simplement le besoin d'expliquer, mais aussi de faire jaillir de cette indignation, parce qu'il y a quand même toujours une indignation par rapport à la souffrance, quelque chose qui est de l'ordre, qui va aider aussi à approfondir le sens d'une vie, le sens d'une existence, la profondeur d'une existence, la profondeur humaine d'une existence. Voilà. Tu veux travailler à la spiritualité, ne fais pas l'impasse sur l'indignation. Et surtout, ne plonge pas à corps perdu dans l'apaisement du besoin d'expliquer par le recours à quelque sacré que ce soit. Enfin, c'était mon premier point. Deuxième point, spiritualité, laïcité et religion. C'est juste pour nous donner quelques points de repère. C'est des mots, spiritualité, laïcité, religion, c'est des mots dont il faut essayer de se donner un petit vocabulaire, si possible, sur lequel on puisse s'entendre pour au moins pouvoir se parler. Je commence par laïcité. Je distingue sécularisation et laïcité. Sécularisation, c'est un processus civilisationnel qui est à l'œuvre en Occident depuis plusieurs siècles et qui tend à rendre la sphère de la vie qu'on appelle du coup profane de plus en plus autonome, et même maintenant carrément autonome, par rapport à la sphère dite sacrée. Le processus de sécularisation, c'est ce qui nous a permis, en Occident, de nous affranchir de la tutelle du religieux pour penser par nous-mêmes. C'est ça la sécularisation au sens de processus civilisationnel. On peut jeter sur ce processus un regard critique, on peut estimer que là ça va trop loin, que ceci, que cela, mais voilà, c'est un processus. Tandis que laïcité, c'est une option. C'est une option politique qui consiste à distinguer ce qui relève de la société civile, de l'État aussi, et ce qui relève de l'organisation religieuse. Donc c'est la séparation, en France, c'est la fameuse loi de 1905, de séparation
de l'Église et de l'État, ou là ensuite on va dire des églises, enfin, etc., mais enfin des affaires du culte et puis de l'État. Mais ça, c'est une option politique. Il y a des pays qui sont sécularisés sans être laïcs. Et il y a des pays qui sont laïcs sans être très sécularisés. Et il y a des pays, par exemple, ici à Aix-en-Provence, il y a un institut qu'on appelle l'IREMAM, l'Institut de recherche du monde arabe et musulman, où il y a aujourd'hui beaucoup de recherches sur la sécularisation actuelle des pays du Maghreb, qui ne sont pas laïcs. Vous voyez, donc, laïcité, c'est une option politique, c'est une décision. Là aussi, on peut dire, on peut regarder, on peut jeter un regard, une évaluation plus ou moins critique. Il y a de la laïcité qui se transforme en laïcisme quand elle devient une idéologie. Et aujourd'hui, à mes yeux, on pourra en discuter, on souffre beaucoup de l'idéologie laïciste. On en souffre même dans la possibilité de poser les questions qui nous intéressent ce soir. C'est-à-dire que l'idéologie laïciste dit tellement que la dimension religieuse, entre guillemets, est une dimension de la sphère privée, qu'on a l'impression de violer dès lors qu'on accepte que la question soit posée. Vous voyez, on est sous une idéologie. Voilà. Donc, là aussi, la laïcité est une option dont on peut évaluer jusqu'où ça peut aller. Autre exemple, j'allais souvent au Liban. Au Liban, on appelle largement de ses voeux un peu de laïcité dans l'air. Parce qu'on en crève qu'il n'y ait pas de laïcité. Donc voilà, laïcité. La question se pose des fois de savoir s'il peut y avoir une spiritualité laïque. Que mettons derrière ce mot ? On dit une spiritualité laïque, c'est une spiritualité qui ne ferait référence à aucune religion. Bon, je garde ça un peu pour la fin, je suis parfois un peu sceptique là-dessus. Mais en tout cas, le positif que j'y vois, c'est la prise en compte de cette dimension de profondeur de l'humain. Quand je dis de profondeur de l'humain, je veux dire ce qui, dans l'intérieur de l'homme, représente une aspiration qui le dépasse sans l'anéantir. Donc qui l'attire, le dépasse, lui donne, qui fait qu'il n'est pas réductible à ce qu'il a fait de sa vie. Beaucoup plus que ça, voilà. Vous voyez, donc la dimension de profondeur, c'est ça. Donc une spiritualité laïque, pour moi, la positive que j'y vois, c'est une attention à cette dimension de profondeur qui ne va pas chercher de référence dans des traditions religieuses, ou peut-être qui va s'interdire de n'en chercher que dans une seule. On pourra en avoir plusieurs. Voilà. Mais qui va jouer, si vous voulez, sur une pluralité des références pour éviter l'enfermement d'une appartenance. Et souvent, la spiritualité laïque, c'est ça. C'est privilégier, surtout, il faut que vous puissiez parler des religions. Parce que si vous n'en parlez que d'une, vous risquez vous êtes tellement lié à une appartenance que vous n'avez pas la hauteur d'esprit qu'il faudrait pour pouvoir vraiment la placer comme il faut. Quand, par exemple, aujourd'hui, il se passe un problème qui touche à la religion, à la radio ou à la télévision, on fera venir le sociologue, on fera venir l'anthropologue, on fera venir le psychologue, mais on ne fera pas venir le théologien. Parce qu'un théologien est tellement, dans l'imaginaire, inféodé à une appartenance, qu'il ne saurait dire quelque chose qui concerne les autres que du prosélytisme. Vous voyez ? Voilà. Donc, par spiritualité laïque, positivement, j'entends ça. Négativement, enfin, ce qui me rend un peu sceptique par rapport à ça, c'est que il y a entre spiritualité laïque et ressources des religions un lien de parenté extrêmement grand. La preuve en est justement cette multiplicité des références qui alimentent la recherche d'une spiritualité laïque. Et donc, je plaide pour que on mette davantage en valeur ce lien, quitte à ce que on travaille à la traduction en langage séculier des richesses anthropologiques dont sont porteuses les religions. Ça me paraît d'ailleurs être un des défis aujourd'hui, hein, et qui concerne tout à fait notre débat, de ce travail de traduction en langage séculier, laïque si vous voulez, à condition que ce ne soit pas laïciste, mais laïque, des ressources anthropologiques dont sont porteuses les religions. Enfin, elles sont porteuses de grandes ressources, de grandes sagesses. C'est pas pour rien qu'on dit sagesse. Qui d'entre nous a lu un petit peu de la Bhagavad Gita ou d'autres textes des religions orientales et qui oserait dire qu'il n'y a là aucune sagesse? Ça se traduit. Ça se traduit. Voilà. Donc, ça c'était pour le mot laïcité et puis aussi spiritualité. Sur le mot religion, je voudrais aussi proposer, c'est une hypothèse de travail, mais proposer de distinguer deux sens au mot religion. Un sens étroit, qui serait celui que nous employons d'habitude, c'est-à-dire religion, c'est un ensemble, vu de l'extérieur, c'est un ensemble de mythes, de rites, de doctrines, bref, un mode d'agir et de vivre, mais bien déterminé, avec ces livres sacrés, ces rituels, etc., etc. J'appelle religion au sens étroit, ça, c'est-à-dire voilà, des choses sociologiquement étudiables. Voilà. J'appelle religion au sens large, et je m'appuie là aussi sur un penseur protestant, ce coup-ci qui s'appelle Paul Tillich, qui a travaillé sur ces deux sens du mot religion, qui est un penseur allemand, mais surtout qui a travaillé aux États-Unis puisqu'il s'était fait virer en 1933. Sens large, c'est ce qu'il appelle, lui, la préoccupation ultime. Vous voyez, ce que tout à l'heure je disais sous l'expression de la recherche de sens. La religion au sens large, c'est la préoccupation ultime du sens de l'existence. Du coup, c'est au sens large parce que on peut très bien être religieux dans ce sens-là sans l'être au sens étroit. Vous voyez ? On peut très bien être habité par une aspiration d'ordre religieux au sens large sans passer par l'appartenance à une religion au sens étroit du terme. Et j'ajouterais que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains qui sont intéressés par la religion au sens large n'entrent pas dans une religion au sens étroit parce que la façon dont ces religions présentent leur message ne paraît pas apporter de réponse crédible aux questions du sens de la vie qu'ils se posent. Moyennant quoi, ils vont chercher ailleurs, mais à tâtons, des éléments de réponse à ces questions, avec la difficulté que les symboles de leur des religions au sens étroit ne semblent pas correspondre à leurs propres questions existentielles. Et souvent, j'observe que, parce que vous savez, les symboles demeurent, les religions passent, mais les symboles demeurent. Le sens de ces symboles migre dans la culture. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais il me semble que, du coup, à notre époque, la médiation de la culture dans ce lien entre les questions d'existence et les réponses offertes par les religions est très important. Par la culture, j'entends voilà, l'art, toutes les productions, toute la créativité. J'avais été très heureux, Jean-Marc, on en a déjà parlé, qu'il y ait à la maison une art-thérapeute, qu'on puisse intégrer dans le soin une expression qui renvoie à de la culture. Voilà. Parce que par là passent des choses, vous savez, le sens des symboles migre. S'il ne se trouve pas dans les religions, il va se trouver ailleurs. Voilà. Il nous appartient de lui donner le maximum de possibilités d'expression. Toujours dans la question de la religion, je voudrais aussi, m'appuyant d'ailleurs sur Paul Tillich, valoriser une compréhension aussi d'une unité dialectique entre les religions. C'est-à-dire, Tillich dit, et je le reprends volontiers ici, et ça peut nous aider aussi à comprendre des choses, il dit, mais au fond, d'abord, c'est un constat que nous pouvons tous faire, si nous regardons la carte des religions, il y a beaucoup plus de religions mortes que de religions vivantes. L'histoire des religions est d'abord un grand cimetière. Et ensuite, nous pouvons constater qu'au fond, il y a toujours une base commune, mais qu'ensuite, il y a des accents différents. Par exemple, pour ne prendre que ceci, qui est un grand trait, on a des religions plutôt prophétiques et on a des religions plutôt mystiques. Le tronc abrahamique judaïsme, christianisme, islam, et une déclinaison différente, mais quand même proche, de religions de type prophétique. Prophétique au sens que le prophète, si vous voulez, est celui qui est aussi critique par rapport à l'établissement de la religion, mais qui privilégie une action pour la justice, une action pour la paix, ou une action pour la guerre, ou enfin en tout cas une action prophétique au sens d'invitation à l'action. Tandis que des religions au sens mystique, c'est plutôt des religions qui mettent l'accent sur le mystique, c'est plutôt des religions qui vont favoriser le travail intérieur, avec ou sans relation avec un divin extérieur. L'hindouisme, le bouddhisme n'ont pas besoin d'une altérité pour inviter à un travail intérieur qui est bien de l'ordre de la spiritualité. Et alors l'idée qui est là, c'est-à-dire que quand on dit, mais au fond, il y a une unité dialectique entre les religions, c'est que s'il y a des accents différents, il reste qu'il y a une base commune. Et que dans toute religion prophétique, il y a aussi des éléments mystiques. Et dans toute religion mystique, il y a aussi des éléments prophétiques. Ça aide beaucoup au dialogue entre les religions. Parce que ça veut dire que même si, par exemple, dans la rencontre avec un bouddhiste, même si nous sommes très loin du point de vue des doctrines, il y a quelque chose de ce qui anime le bouddhiste que moi je peux trouver dans le christianisme. Combien de gens d'ailleurs, je l'ai vu quand je dirigeais cet institut, sont passés par l'étude du bouddhisme pour arriver un jour à Thérèse d'Avila ou à Saint-Jean de la Croix et découvrir des ressources mystiques d'une tradition qui était la leur autrefois. Et on peut dire inversement, il y a dans les religions mystiques quelque chose de prophétique. Il suffirait de lire non seulement la vie du Bouddha lui-même, mais aussi d'autres grandes figures du bouddhisme qui ont cette dimension mystique. Prophétique, pardon. Allons, si vous voulez, en déclinant, et même vraiment à gros traits, allons jusqu'à Gandhi, avec une dimension, alors là, prophétique pour le coup, mais sur une base mystique. Voilà. Ce qui m'intéresse là, c'est que du coup, vous voyez, on peut bien sûr s'attarder longtemps sur les différences entre les religions, mais il y a beaucoup plus d'intérêt à chercher ce qui est commun. Et ce qui est commun, c'est un certain dosage. Un certain dosage. Quand on prend conscience de ça, on prend conscience que s'il y a une altérité réelle, elle n'est pas insurmontable. Et que donc, dans la façon dont on va pouvoir travailler sur la référence aux religieux, tout ça, on va pouvoir faire jouer une prise en compte de la particularité religieuse de la personne à laquelle on s'adresse, sans enfermer cette particularité dans quelque chose qui serait incommunicable. Vous voyez ? L'altérité n'est pas insurmontable. Je cite un passage de Tillich dans les Bampton Lectures. Il dit « Dans la profondeur de toute religion vivante, il y a un point où la religion comme telle perd son importance. Et ce vers quoi elle se dirige brise sa particularité et l'élève à une liberté spirituelle qui lui donne une vision de la présence du divin dans les autres expressions du sens ultime de l'expérience humaine. » C'était en 1961. Pas d'hier. Voilà quelques éléments, si vous voulez, sur spiritualité, laïcité, religion. Et vous voyez que du coup, si on s'accorde sur cette... on pourra bien sûr en discuter, hein, sur ces mots qui sont à la fois proches et qui signalent quand même des différences d'approche, de point de vue, hein, quand même on peut avancer. Le fait de se poser la question du sens de la vie, et c'est une question qui se pose encore plus dans les situations des personnes avec lesquelles vous travaillez, le fait de se poser cette question du sens de la vie est déjà un chemin spirituel. Que cette question obtienne une réponse séculière ou religieuse ou agnostique ou athée, la différence a son importance, mais à mes yeux, cette importance est secondaire. L'important, c'est que la question se pose. Et d'une certaine façon, ce qui est décisif, c'est que nous, quand je dis nous, je dis médecins, soignants, familles, accompagnants, patients aussi, nous, nous sachions entendre sous toutes leurs formes les questions où il y va en définitive de la vie, et que nous sachions aussi exprimer et accueillir cela en nous-mêmes dans notre liberté intérieure. Voilà, mes yeux, tout le défi de la question de la spiritualité. Nous sachions entendre, sous quelque forme qu'elle s'exprime, ces questions où il y va du sens de la vie, et que nous sachions, nous, les accueillir aussi dans notre liberté intérieure. Voilà, pour moi, c'est le cœur de la question de la spiritualité. Alors, j'ai dit quelques mots sur la santé et le sacré, pour essayer d'en déjouer les ambiguïtés. Deux, spiritualité, laïcité et religion, pour essayer là aussi de mettre un peu de jeu entre ces différentes notions. Trois, quelques réflexions sur fin de vie et sens de l'existence. On pourrait dire fin de vie et finalité de l'existence, mais finalité a un mot trop instrumental, c'est un mot trop instrumental que je préfère ne pas prendre là. Mais voilà, fin de vie et sens de l'existence. L'enjeu que vous vivez, pour autant que j'ai pu le percevoir en accompagnant ma sœur, et puis après d'autres personnes, l'enjeu est le statut à la fois thérapeutique, institutionnel, moral, affectif, d'une pratique médicale qui, face à cette catégorie de malades, doit se résigner à soigner encore sans projet de guérison. Ça, sans qu'on soit assuré qu'il puisse y avoir un projet de guérison, même sans projet de guérison. Et le vis-à-vis de cette pratique, c'est souvent la souffrance. Elle-même aux confins de la mort, et c'est la souffrance lorsqu'elle n'est plus simplement un symptôme à interpréter, mais une condition d'existence, de détresse, à soulager et à accompagner. On sait bien les difficultés qui se posent, les lois sont en débat, vous savez mieux que moi, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordination déraisonnable d'un côté, sur l'euthanasie de l'autre. On sait bien aussi, vous savez mieux que moi, le besoin dans ces cas-là d'une délibération collégiale, la plus collégiale qui soit. Et dans ce contexte, donc, qu'est-ce qui relève de la spiritualité? A-t-elle une place à jouer? En disant les conclusions de la thèse dont on nous a parlé, ici, je suis confirmé dans l'idée que la spiritualité est quelque chose de très important, à côté de la dimension physique, de la dimension psychologique et de la dimension sociale, il y a la dimension spirituelle. Et ces dimensions sont en interaction. Et donc on aurait tort de passer à côté de la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui relève de la spiritualité? Je crois que, avec ce que j'ai dit, cela maintenant coule de source de certaines façons, je mettrais derrière ce qui relève de la spiritualité, c'est la recherche de sens. C'est-à-dire, plus précisément, me semble-t-il, quand on en est là, la recherche d'une certaine cohérence de sa propre vie. Ça passe sans doute, quand cela est possible, par une relecture accompagnée de sa vie. Et il me semble que c'est quelque chose dont nous éprouvons, nous tous, le besoin, même sans être dans cette situation extrême. Le besoin d'une relecture accompagnée de sa vie. Ça passe par des activités, bien sûr. Ça peut passer, j'en donne quelques-unes. Ça peut passer par des lectures. Il y a des fois des textes qu'on donne à lire, des petits livres qu'on permet de lire, et qui débloquent des choses, qui aident à relire sa vie, qui aident à relire tel passage de sa vie. Ça peut passer par des discussions, par des groupes d'échange, par de la musique, par des films. Des fois, les images vont encore plus vite que la lecture. Elles permettent d'évoquer quelque chose. Mais tout orienté vers la relecture accompagnée de sa propre vie. Ça passe par l'art. Ça passe par la prière. Sous bien des formes. Mais la relecture accompagnée de sa vie. C'est pas pour rien que, quand vous regardez les traditions religieuses, Je pense au bouddhisme, je pense au judaïsme, et à d'autres aussi. L'importance de l'accompagnateur ou de l'équipe d'accompagnement qui va faire ce travail-là. Alors, ça ne s'improvise pas, bien sûr, ça ne s'improvise pas. Mais il me semble que dans la volonté qui est la vôtre d'accompagner au mieux les personnes qui sont confiées à vos soins, ça fait partie de l'outillage qui pourrait être nécessaire. Quand on lit l'enquête, on voit bien qu'on cherche des outils, on cherche des possibilités. Alors, moi, je pense que c'est ça je fais l'hypothèse que ça, c'est très important. Essayer de permettre une relecture de la vie. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma sœur, en y allant tous les soirs, la voir tous les soirs pendant une bonne heure, pendant 3 mois. Mais cette relecture-là, voilà, elle vient pas ce soir parce qu'on a décidé. Mais elle vient tel soir parce qu'il y a eu beaucoup d'autres soirs avant. Et puis elle vient pas qu'avec moi. Elle vient parce que tel jour, elle aura pu dire quelque chose à l'infirmière le matin. Parce que tel jour, la psychothérapeute sera passée. Parce que, et après, ça s'unifie. Et la relecture s'unifie à la faveur d'ailleurs de la multiplicité des acteurs. Donc chacun a un rôle. Mais c'est important de voir l'objectif. Et l'objectif qu'on pourrait appeler le bien-être spirituel, dans les religions, souvent dans les traditions religieuses, ça s'appelle la paix intérieure. Le bien-être spirituel. Ce que nous on peut appeler le bien-être spirituel, ça s'appelle la paix intérieure. Il me semble que l'une des choses auxquelles il faut veiller, c'est que souvent, la paix intérieure est difficile à obtenir tant que certaines blessures de l'existence n'ont pas été sinon cicatrisées, du moins nommées. Il faut accepter que dans toute existence, il y a un peu de non-sens. Chercher le sens de l'existence, ça ne veut pas dire que ça y est, je vais trouver toute ma vie a du sens. Non, dans une vie, il y a aussi des moments de non-sens. Il y a des moments d'incohérence. La question n'est pas de les gommer, ni de leur donner du sens à tout prix, mais d'accepter que ce non-sens-là fasse partie d'un sens global qui me dépasse. Souvent, souvent ce qui caractérise un geste spirituel, c'est un travail d'acceptation, un travail au fond de simplification de soi. Une des choses qui caractérise le geste spirituel, c'est une simplification de soi. Voilà, qui accepte au fond de remettre entre les mains d'un autre, ou de plusieurs autres, ou d'un autre avec un grand A, de se remettre entre les mains d'un autre, ou d'un plusieurs autres, ou d'un autre avec un grand A, et de recevoir d'eux ou de lui ce complément de sens qui fait que ma vie finalement, elle est comme elle est. Mais elle a du prix, elle a du sens, quand bien même je suis bien capable de voir toutes les incohérences de son parcours. Ou au moins certaines, et puis d'autres que je ne vois même pas. Souvent l'obstacle, ce sont ça, ce sont ces blessures des relations blessées qui font mal longtemps, et dont la douleur se ravive parfois, surtout quand on sent ou qu'on a l'impression qu'on n'aura plus le temps de les réparer. Donc, la dimension spirituelle, ça a à voir avec un travail de réconciliation profonde. Souvent, il me semble, pour les cas que j'ai pu voir, que la gravité de la maladie, parfois, aide aussi à relativiser certains désaccords. Aide aussi à guérir plus facilement certaines blessures qui sinon se seraient traînées encore longtemps. Parce que ça aide à dire les choses. Et puis, encore une chose là-dessus, celui qui accompagne, s'il veut vraiment aussi accompagner dans une dimension spirituelle, doit accepter lui aussi d'entrer dans un chemin spirituel. C'est-à-dire que lui-même ne va pas sortir indemne de cet accompagnement-là, parce que il y a dans ce qui éclot à ce moment-là de la vie, et dans cette dimension spirituelle, il y a une force incroyable de l'amour. incroyable de l'amour. Et ça, les religions le disent toutes à leur façon. Une force incroyable de l'amour. Le mot le plus commun à toutes les religions sur Terre, c'est le mot miséricorde. Plus ou moins bien mis en pratique par toutes les religions, bien sûr. Mais c'est le mot le plus commun, la miséricorde. Et le mot miséricorde, si on prend la racine hébreu, c'est les entrailles. C'est les entrailles, c'est l'amour. Voilà. Eh bien, il me semble que dans la fin de vie, on peut aussi entrevoir la force étonnante de l'amour, d'autant plus étonnante qu'elle se déploie dans la faiblesse. Pour conclure, je dirais que quand les mots impuissants s'éteignent doucement, quand la faiblesse du corps laisse peu à peu s'échapper la vie, alors il me semble que se révèle une profondeur immense dont l'amour et la force et dont l'accompagnement spirituel permet qu'elle apparaisse, qu'elle jaillisse, qu'elle apaise de l'intérieur, qu'elle donne cette paix intérieure qu'on appelle aussi le bien-être spirituel. Et permettez-moi de croire, mais ce coup-ci du coup, puisque je dis croire, je me prononce, permettez-moi de croire que c'est cette force-là qui est plus forte que la mort. C'est une force qui désarme, d'autant plus qu'elle donne sa mesure au sein même de la faiblesse. Au fond, vivre la spiritualité dans l'accompagnement de malades en fin de vie, c'est découvrir la force de l'amour. Il suffit d'aimer. Voilà ce que les croyants ont la faiblesse de croire, si je puis dire. En tout cas, que vous recherchiez dans le travail magnifique qui est le vôtre et auquel je rends hommage encore une fois pour les raisons que maintenant vous savez, que vous vous cherchiez aussi à apporter un soin spirituel en plus de ceux que vous apportez déjà et que vous cherchiez la meilleure façon de le faire est pour moi un motif supplémentaire de vous dire encore merci.